Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Blaise Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Crise humanitaire dans l'est de la RDC, Bruno Lemarquis hausse les tons. Selon les coordonnateurs humanitaires, c'est une crise humanitaire qui est sous-financée, qui est un peu plus négligée par rapport à d'autres crises dans le monde. Il l'a dit hier à son arrivée à Beni, au Nord Kivu. Les réactions continuent de tomber quant à la vandalisation du siège du PPRD lundi dernier. La dernière en date est celle du coordonnateur de la nouvelle société civile. Pour Jonas Tchombela, cet acte de vandalisme politique, quels qu'en soient les auteurs ou les motivations, traduit une dérive dangereuse vers la violence comme mode d'expression politique. Les professionnels des médias ont célébré dimanche 3 mai 2026 la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Façonner un avenir de paix ». À cette occasion, les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont évalué l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Vous allez les suivre tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Crise humanitaire dans l'est de la RDC, Bruno Lemarquis élève les tons. Les coordonnateurs humanitaires en RDC alertent sur une crise humanitaire sous-financée et largement négligée dans cette partie du Congo et ce, ajoute-t-il, malgré des besoins immenses. Il l'a signifié hier mardi à Beni, où il est arrivé après avoir séjourné à Bunia pendant 2 jours. Il parle d'ailleurs des millions de déplacés et d'un manque criant de moyens. On écoute Bruno Lemarquis au micro de Martial Papimoukeba.
C'est une crise humanitaire qui est sous-financée, qui est un peu négligée par rapport à d'autres crises dans le monde. Ça vient d'une part de l'ampleur des besoins, parce qu'on est toujours dans des cycles de violence du fait de l'activisme de certains groupes armés, avec des déplacements multiples des populations, beaucoup de problèmes de protection, surtout les femmes et les filles. Donc il y a toujours ces énormes besoins. En ce moment, à l'échelle du Congo, ça fluctue toujours entre 6 et 7 millions de déplacés internes et de très nombreux déplacés internes dans la province du Nord Kivu. Des gros besoins, des moyens qui sont pas à la hauteur de ces besoins, surtout depuis les 12 derniers mois avec toutes ces grandes coupures budgétaires. En Ituri, ça dépend des zones. Il y a des zones où il y a un peu plus de stabilité. Par contre, il y a des hotspots qui continuent à poser beaucoup de problèmes, notamment à Djougou, dans la ville de Boulé. Une situation extrêmement complexe avec énormément de déplacés. Il y a un camp de déplacés. La dernière fois que j'ai visité, il y avait 21 000 personnes et en ce moment, il y en a 73 000 du fait des affrontements qui ont eu lieu entre le groupe CRP et l'armée congolaise et de très très nombreux camps de déplacés qui se sont vidés pour s'agglutiner dans ce site unique de ce qu'on appelle Plaine Savo. Donc une situation vraiment complexe dans cette zone-là.
Nous venons de le dire, avant d'atterrir à Beni, le coordonnateur des opérations humanitaires en RDC a foulé les sols de Bunia en Ituri lundi. Sur place, Bruno Lemarquis a visité le site de la plaine de Savo, près de Boulé, dans le territoire de Djougou. Notez que 73 000 déplacés de ce site reçoivent depuis hier mardi une assistance alimentaire du programme alimentaire mondial PAM. Mais malgré cette aide, la situation humanitaire reste préoccupante. La majorité de ces déplacés passent la nuit à la Belle Étoile, tandis que l'accès aux soins médicaux et à l'eau potable demeure insuffisant. Ces déplacés ont exprimé leur inquiétude à Bruno Lemarquis, coordonnateur des opérations humanitaires en RDC. Reportage Isaac Remoyope.
Cela faisait environ 6 mois que ces déplacés n'avaient pas reçu d'assistance alimentaire. Selon le programme alimentaire mondial, 625 tonnes de vivres seront distribuées à près de 73 000 personnes actuellement installées sur ces sites. Une aide qui contribue à améliorer tant soit peu leurs conditions de vie. Sur place, la situation restait difficile. Entre 2 et 5 décès étaient enregistrés chaque jour, notamment à raison du manque d'accès aux champs liés aux opérations militaires dans la zone. Les bénéficiaires expriment leur soulagement.
Nous exprimons notre gratitude pour l'assistance alimentaire du PAM, car ici la population souffre énormément. Il n'y a pas de nourriture et nous n'avons pas accès aux champs. Des personnes meurent de faim.
En plus de l'aide humanitaire, les humanitaires fournissent des soins médicaux gratuits, notamment aux enfants souffrant de malnutrition ainsi que de l'eau potable. Mais les besoins restent énormes. Les déplacés demandent davantage de soutien et appellent à un plaidoyer à leur faveur. De son côté, Bruno Le Marquis souligne que les humanitaires font de leur mieux malgré les contraintes financières au niveau mondial.
Les acteurs font tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont limités financièrement. Mais vraiment, le cri de tout le monde, c'est la paix pour que les gens puissent rentrer chez eux.
Plusieurs partenaires humanitaires interviennent dans la zone, notamment Médecins Sans Frontières, les PAM et les ACR, pour venir en aide à ces populations en détresse. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans ce notre chapitre, le siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a été bel et bien incendié lundi. Trois jours après le sinistre, des traces d'incendie sont visibles sur les bâtiments abritant les sièges du PPRD sur le boulevard Sendwa-Kinshasa. Selon des témoins, ce local inactif depuis un certain temps a été incendié par des manifestants en marge de la marche organisée lundi par l'UDPS, parti au pouvoir, pour soutenir les sanctions américaines visant l'ancien président Joseph Kabila. Et cet incident suscite bien des réactions au sein de l'opinion congolaise. Pour l'acteur de la société civile Jean-Claude Katende, de tels actes mettent en péril la démocratie en RDC. De son côté, la nouvelle société civile congolaise condamne ces vandalismes et appelle à l'ouverture d'une enquête judiciaire. On écoute son coordonnateur Jonas Tchombela au micro de Grace Amzati.
Cet acte de vandalisme politique, quels qu'en soient les auteurs et les motivations, traduit une dérive dangereuse vers la violence comme mode d'expression politique. Brûler le siège d'un parti, c'est s'attaquer, c'est attaquer le pluralisme, intimider les acteurs politiques et porter atteinte à l'ordre démocratique. La nouvelle société civile congolaise tient à rappeler que la démocratie ne se construit pas ni par la peur, ni par la destruction, mais par le respect des institutions, des libertés publiques et du débat contradictoire. À cet effet, la nouvelle société civile congolaise exige l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante afin d'identifier les auteurs, commanditaires et complices. La nouvelle société civile congolaise appelle les autorités judiciaires à agir avec impartialité et rigueur, sans considération d'appartenance politique. La nouvelle société civile congolaise met en garde contre toute banalisation de la violence qui risque d'installer durablement un climat de chaos politique. Enfin, la nouvelle société civile congolaise invite l'ensemble des acteurs politiques à privilégier les voies pacifiques et démocratiques dans l'expression de leurs divergences.
Nous allons à présent évoquer cette colère de certains automobilistes qui se disent être traumatisés par les contrôleurs des véhicules ici à Kinshasa. Une conductrice, vous allez l'entendre, déclare être contrôlée sans problème non loin de son habitation après avoir montré tous les documents du véhicule. Mais une fois en ville, d'autres agents l'arrêtent et lui font comprendre qu'elle n'est pas en ordre puisque la validité de ces documents a expiré depuis 6 mois selon les contrôleurs. Très en colère, la conductrice a rétorqué que nous ne sommes qu'au 5e mois. Elle demande par ailleurs aux autorités d'accélérer la réhabilitation des routes qui cassent les véhicules. Elle est jointe par Lievin Mbwingavubu.
J'étais sur le boulevard en venant de Delvaux, où j'ai été contrôlée le matin en passant au niveau du marché, non loin de la station Total. J'ai été contrôlée, tous les documents, et c'était bon pour moi. Et quand j'arrive sur le boulevard au niveau de Wangata, j'ai vu une autre équipe d'agents. Sachant que j'ai pas de problème, ils m'ont demandé de m'arrêter, je me suis arrêtée. Je donne les documents et ils me disent que la vignette de mon contrôle technique a déjà expiré. C'est une vignette où la durée, la validité du contrôle technique est de 6 mois. Mais je leur ai dit que bon, j'étais encore dans le bon. Ils me disent non, il faudrait absolument que j'aille au bureau. J'ai dit non, je vais pas aller au bureau parce que je sais que j'ai passé mon contrôle technique cette année en 2026 et donc nous ne sommes même pas encore au mois de juin, donc mon contrôle, il est valide. La chose qui nous étonne dans tout ça, c'est que ces agents n'ont pas eux tous la même manière de voir les choses, ou si je peux le dire de manière un peu plus simpliste, on dirait que chacun ou chaque point de contrôle a ses exigences. Je demanderais que si ce contrôle technique se fait, peut-être pour une première fois, il a été effectué pour une validité de 6 mois, mais c'est anormal, le contrôle technique se fasse pour 6 mois. Sur quelle route nous roulons? Ce sont ces mêmes routes qui bousillent nos véhicules, pour ces mêmes routes encore que nous devons payer, faire des contrôles. C'est quand même anormal. C'est vraiment incroyable.
Radio Kapi a cherché à joindre les responsables de la ville qui ont en charge les transports pour comprendre cette validité des documents, mais en vain. Tous étaient injoignables. Puisque nous parlons route, sachez que l'Assemblée nationale examine la proposition de loi initiée par les députés Toby Kayumbi visant à modifier et compléter la loi de 1978 portant code de la route. Le texte est actuellement analysé au sein de la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication avec la participation de plusieurs experts. Selon son initiateur, cette réforme vise à adapter la législation routière aux réalités actuelles, à renforcer la sécurité des usagers. Quelles sont les principales innovations de cette proposition de loi? Élément de réponse avec Vanessa Kongolo.
Dans cette nouvelle loi portant sur le code de la route, 47 articles ont été modifiés, 51 nouveaux articles seront ajoutés au code de la route congolais. Parmi les innovations, on retrouve l'intégration de nouveaux concepts liés à la circulation routière, prenant en compte l'évolution des pratiques urbaines, la requalification des agents de circulation, accompagnée de nouvelles règles encadrant leur intervention ainsi que leur formation continue, le renforcement des mesures de sécurité routière, notamment en matière de manœuvre, de changement de direction et de comportement des usagers, l'introduction des dispositions spécifiques pour les piétons, les motards, les cyclistes ainsi que pour les tricycles, quadricycles et véhicules de transport public, la réglementation du temps de conduite et des repos dans les transports routiers, ainsi que l'instauration de barrières des pluies, la révision des conditions de mise en circulation de véhicules, incluant l'encadrement de contrôles techniques, l'introduction de nouvelles règles relatives au permis de conduire, enfin la révision à la hausse des amendes, désormais libellées en francs congolais, avec un objectif clairement dissuasif.
Nord Kivu, la passation des épreuves préliminaires de l'examen d'État ne se passe pas comme prévu. Elle a été suspendue hier mardi dans les centres de passation situés dans la localité de Remeka, groupement Oufamandou Premier en territoire de Masisi. Selon des sources locales, cette situation fait suite à des violents affrontements ayant éclaté autour de cette agglomération mardi matin. Autre conséquence, les élèves ainsi que leurs parents ont fui plusieurs villages dans cette zone pour trouver refuge dans les territoires de Walikale. Plus de détails avec Lévin Mbouingavoubou.
Selon plusieurs sources locales, ces affrontements opposent des éléments de l'AFC M23 aux miliciens Wazalendo du groupe Mai Mai du chef Noah Machano, allié au FRDC. Les détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué la fuite de tous les habitants de la localité de Remeka. Plusieurs villes, dont Misimbira, Maïga et Kale, se sont vidées de leur population. Parmi les déplacés, les élèves finalistes qui ont simplement abandonné leur centre d'examen. La majorité de ces familles a pris la direction de Birico, dans le territoire voisin de Walikale. Nos sources rapportent qu'un élève a été blessé par balle au cours de ces affrontements. Un acteur social dans la zone regrette de voir ces affrontements éclater en pleine session des épreuves préliminaires de l'ex-État et en appelle à un minimum d'humanité de la part des belligérants. Un sentiment partagé par de nombreux parents révoltés de devoir fuir à nouveau avec leurs enfants après des mois de préparation et des nuits blanches d'études. Ils exigent que tout soit mis en œuvre pour réparer ce tort et permettre aux candidats de terminer leurs épreuves dans la dignité.
Une école qui fait parler d'elle au Maniema, il s'agit du complexe scolaire Kalambo. Situé dans un bloc périphérique de Kindu, cette école vient en aide à de nombreux enfants qui éprouvaient des difficultés à se rendre en ville pour étudier. 10 ans après sa création, ses responsables se félicitent d'avoir pu prendre en charge plusieurs élèves issus des familles démunies. Cependant, le complexe scolaire appelle les autorités à un appui accru, notamment en équipement, afin d'assurer un encadrement optimal de ces apprenants considérés comme l'avenir de demain. Reportage signé Florence Kizalunga.
Implanté au bloc Salaman, une contrée éloignée du centre-ville, le complexe scolaire Kalambo accueille plus de 1000 élèves et prend en charge certains enfants vulnérables comme Cléopa Hassani.
J'étudie ici au complexe scolaire Kalambo depuis mon école primaire et jusqu'à aujourd'hui je suis en deuxième scientifique. Mes parents n'ont pas de moyens pour me faire étudier, mais c'est l'école qui me prend en charge.
Les parents et aussi sa sali l'initiative du promoteur qui a rapproché l'école de leurs enfants. Témoignage de Takaïche Selemani.
Nous comme parents, nous sommes très soulagés parce que certains enfants n'étudiaient pas faute de moyens de transport de quitter ici vers la ville.
Le préfet de l'école, Gustave Nyembo, réaffirme l'engagement du complexe scolaire à œuvrer pour le bien-être de la communauté.
De 2016 jusqu'à 2026, aujourd'hui 10 ans de Kalambo. Le complexe de Kalambo est au service de la communauté parce qu'il y a des enfants qui sont démunis, mais Kalambo est en train de prendre d'autres en charge pour qu'ils soient éduqués comme les autres qui ont des moyens.
Cette initiative a reçu les encouragements de l'autorité urbaine à Tibou Moulamba.
Nous devons encourager l'œuvre telle que réalisée par un particulier qui a mobilisé les moyens, pas pour ses propres fins, mais pour l'instruction de nos enfants. Nous devons tous investir dans l'homme.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Place à présent à notre série consacrée à l'élection à la FECOFA. Nous parlons aujourd'hui du déroulement des élections au sein de cette fédération. Vanessa Kongolo nous explique.
Les élections au sein de la Fédération Congolaise de Football Association se déroulent selon les règles bien établies à l'article 30 du statut révisé en 2022. D'abord, le vote s'est fait à bulletin secret et par liste sous la supervision de la commission électorale. Pour être élu, une liste doit obtenir la majorité absolue, soit plus de 50% du suffrage valablement exprimé. Dans ces cas, avec 68 votants, pour être élu, il faut avoir au moins 35 votants. À défaut, un deuxième tour est organisé entre les deux listes arrivées en tête. En cas d'égalité persistante, les règlements prévoient soit le recours au score du premier tour, soit en dernier ressort un tirage au sort. À noter enfin que le bulletin non valable, les bulletins vierges, les abstentions et les votes manipulés ne sont pas pris en compte dans les calculs de la majorité. Quant au calendrier électoral, les membres doivent être convoqués 45 jours avant l'Assemblée générale élective. Les candidatures doivent être déposées 30 jours avant et la liste officielle des candidats communiquée 10 jours avant la tenue du scrutin.
Actualité internationale.
2 mois après le début du conflit au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, passage vital pour le commerce mondial, est toujours bloqué par l'Iran. C'est un coup dur pour les économies du Golfe qui exportent leur pétrole et leur gaz à destination du reste du monde. Le détroit d'Ormuz est aussi la porte d'entrée des marchandises. Et pour continuer d'être livrés, les pays du Golfe ont développé des routes alternatives.
L'invité.
Les professionnels des médias ont célébré dimanche 3 mai 2026 la Journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Façonner un avenir de paix ». À cette occasion, les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont évalué l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Floribert Loboto, vous êtes président du conseil d'administration de la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Vous êtes également membre du comité de suivi des recommandations des états généraux de la communication et des médias. Comment vous évaluez la liberté de la presse à ces jours en RDC?
Par rapport à la liberté de la presse, c'est vrai que la précarité et la pauvreté des journalistes enlèvent une grande partie à cette liberté. C'est vrai aussi que la situation de la guerre dans l'Est de la République complique davantage l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, depuis l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, la République démocratique du Congo a gagné plusieurs places. Aujourd'hui, selon RSF, nous avons gagné plus de 30 places. C'est déjà quelque chose à féliciter.
Lorsque vous suivez ces différents reportages que nous avons écoutés avec vous, le premier vice-président de l'UNPC revient sur la précarité dans laquelle vivent les journalistes. Et dans le Grand Katanga, on a suivi la présidente provinciale de l'UNPC qui fait, n'est-ce pas, mention de la crainte des journalistes à exercer leur métier du fait des intimidations et interpellations. Lorsque vous suivez ces tableaux sombres, comment vous réagissez?
Je réagis en reprenant les propos d'un aîné, Charles Dimanche Awembi. Charles Dimanche Awembi a dit dernièrement, le journaliste, son objectif, c'est après avoir donné l'information, il doit vivre. C'est-à-dire, le journaliste doit tenir compte de l'environnement. C'est-à-dire, quand vous donnez l'information, après que les gens aient suivi cette information-là, que vous n'ayez pas de problème. Selon que vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Goma, ou vous êtes dans le Katanga. Nous, nous avons travaillé quand l'AFDEL arrivait à Kinshasa. Et là, je dois remercier les aînés avec qui nous avons travaillé, Kibambi Chintois, Simplice Kalunga Warumba, Dimanja Wendi, mais on traitait l'information, on n'avait pas de problème. Et quand l'AFDEL est arrivé ici, on a laissé TKM travailler, parce qu'on savait traiter l'information.
Merci Alain Kabongomboui, vous êtes secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA en sigle. Quelle évaluation vous faites de la liberté de la presse en RDC à ce jour?
Oui, dans le cadre de notre monitoring depuis janvier à mai 2026, nous avons pu répertorier juste moins de 10 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Sur les plans statistiques, en comparant à l'autre année, on peut se dire qu'il y a baisse des cas d'atteinte à la liberté de la presse sur cette période-ci. Mais est-ce que cela peut nous amener directement à conclure qu'il y a liberté de la presse en RDC? Parce que même quand les co-débatteurs a évoqué les classements des RSF, c'est sur base des chiffres statistiques. Mais sur les plans pratiques, vous constaterez que la liberté de presse est actuellement mise en péril, que ce soit dans les territoires sous contrôle de la rébellion ou dans les territoires sous contrôle gouvernemental. Et c'est pour cela que nous autres, nous constatons que les statistiques sont si moindres parce que ces gens privilégient beaucoup plus l'autocensure.
Merci Jacques Bouira Hangi, vous êtes avocat au barreau du Nord Kivu. Comment vous également vous évaluez la liberté de la presse en RDC?
Tout d'abord, je veux noter que il n'y a pas d'avancée sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo sur le plan pratique, parce qu'on a tendance à croire que parce que la RDC a été cotée 130e pays sur 180 pays. Parce qu'il a gagné quelques 3 ou 4 chiffres, cela veut dire que la RDC a prospéré en matière d'exercice de la liberté de la presse. Non, ce n'est pas le cas.
Qu'est-ce que vous recommanderez pour que la liberté de la presse soit exercée sans beaucoup de difficultés?
Ma première recommandation, c'est que les intimidations cessent à l'endroit des journalistes. Deuxièmement, il faudrait que le CESAC travaille et exerce effectivement les missions pour lesquelles il a été créé.
Voilà qui met fin à ce journal du matin coordonné et supervisé par Lévin Mbouingavoubou et mis en onde par André Mongou. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.